Bien, frères et sœurs, voilà, je suis en Suisse ce matin, donc je vous prêche sur une cassette. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ma présence réelle, mais c'est surtout la parole de Dieu. Et je prie pour que cette parole fasse du bien à chacun de vous, que ce que je notais pour vous puisse vous fortifier. C'est la suite, en fait, du message de vendredi. Et on va donc continuer au sujet de la croissance de notre foi. Et étudier ces choses-là un peu plus en profondeur, les établir sur la parole de Dieu. Non pas que vous ne connaissiez pas ces choses, mais je pense que c'est bon de temps en temps de revenir sur les choses de base afin que vous sachiez, vous vous souveniez toujours d'où vous venez et où est-ce que nous allons ensemble. Alors, je vous rappelle le texte qu'on avait lu, c'était dans 1 Jean 2, 12, 14. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. » Alors là, vous pouvez jouir de la justice et des bénédictions en tant qu'enfant de Dieu si vous avez la foi spirituelle. Rappelez, je vous ai parlé l'autre jour de la foi charnelle. Eh bien, si vous avez la foi spirituelle, vous pouvez donc jouir de la justice et des bénédictions de Dieu. Vous ne recevrez pas seulement le salut, c'est pas seulement que vous irez au ciel, mais vous recevrez aussi les réponses à tout ce que vous demandez. En plus, si vous avez une foi agréable à Dieu, une obéissance à sa parole, eh bien, toutes choses deviennent possibles avec votre foi. Hein, la foi sans les œuvres, c'est mort. Donc, c'est-à-dire, la foi, elle est obligatoirement suivie d'actions, des actions d'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu qui ne soit pas en accord avec sa volonté, c'est-à-dire avec ce qu'il agrée, ce qu'il aime. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Marc 16, 17-18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, donc il y a des miracles qui doivent accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors Jésus a dit à ses disciples qu'ils avaient peu de foi quand il les avait vus incapables de chasser les démons. Là, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, qui auront foi en moi, qui auront foi. En mon nom, ils chasseront des démons. Alors un jour, ils avaient vu incapables de chasser les démons et il leur a dit, voilà, vous avez peu de foi. Il ajoute que tout est possible, même avec une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, un grain de moutarde. On trouve ça dans Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors un grain de sénévé, un grain de moutarde, c'est aussi petit qu'une marque que vous pouvez faire avec votre stylo bille sur un bout de papier. Tout petit. Cependant, avec une foi aussi petite, Jésus dit que vous pouvez déplacer des montagnes d'un lieu à un autre et que donc toutes choses vous sont possibles. Alors est-ce que vous avez une foi qui est aussi petite qu'un grain de moutarde? Les montagnes bougent-elles d'un endroit vers un autre, à votre ordre? Toutes choses sont-elles possibles pour vous? Il faut que nous plongions dans cette parabole du grain de moutarde que Jésus nous a donné, qu'on cherche bien à comprendre. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu 13, 31-32. Un grain de moutarde, c'est le plus petit, c'est la semence la plus petite qui existe. Mais quand ça grandit, ça devient un arbre, un très grand arbre, et beaucoup d'oiseaux viennent se nicher là-dedans, dans ses branches. Et Jésus a utilisé la parabole du grain de moutarde pour nous enseigner que nous pouvons déplacer une montagne d'un endroit vers un autre et que toutes choses sont possibles si notre petite foi grandit. Grandit. Les disciples de Jésus auraient dû posséder une grande foi avec laquelle toute chose est possible. Parce qu'ils avaient été avec Jésus pendant longtemps. Ils avaient assisté de leurs yeux à de nombreux miracles. Cependant, Jésus leur dit qu'il leur fait même un reproche parce qu'ils n'avaient pas une grande foi. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous obtenez la foi spirituelle. Votre foi doit mûrir vers la pleine mesure qui rend toute chose possible. Dieu veut que vous receviez des réponses à tout ce que vous demandez en augmentant votre foi. Éphésiens 4, 13, 15 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est naturel. Lorsqu'un bébé naît, sa naissance soit enregistrée auprès du gouvernement, et puis il grandit pour devenir un enfant, et puis un adolescent, et puis à un moment donné, il va se marier, donner naissance à des enfants et devenir père. Bien, de la même manière, vous devenez un enfant de Dieu au travers de Jésus-Christ par votre foi. Votre foi maintenant doit grandir chaque jour pour atteindre la foi des enfants, puis la foi des ados, des jeunes, puis la foi des pères. Alors, il y a un Corinthiens 3, 2, 3 qui nous enseigne « Je vous ai donné du lait, c'est Paul qui parle, et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Ils ne veulent pas supporter la nourriture solide. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et tout comme un bébé nouveau-né doit boire du lait pour vivre, un bébé spirituel doit boire du lait spirituel pour grandir. Comment un bébé spirituel peut-il dès lors grandir pour devenir père? Alors 1 Jean 2, 12 nous dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » Ce verset nous dit que « Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, ses péchés lui sont pardonnés lorsqu'il accepte Jésus-Christ et qu'il reçoit le droit donc de devenir enfant de Dieu par le Saint-Esprit qui vient habiter dans son cœur. » Jean 1, 12, voilà. Il n'y a que le nom de Jésus par lequel nous pouvons être sauvés, pardonnés, recevoir le salut. Obviamment, ça choque beaucoup de monde quand on dit « il n'y a que Jésus », ça fait très sectaire. Mais pourquoi donc Jésus-Christ est-il le seul sauveur? Les humains ne peuvent pas être sauvés par un autre nom que celui de Jésus-Christ et ne peuvent pas être pardonnés de leurs péchés sans le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Pourquoi? Acte 4, 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 10, 43 dit « Tous les prophètes rendent de lui, de Christ, de Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est donc la providence et la volonté de Dieu que les hommes soient sauvés par Jésus-Christ. Au travers de l'histoire de l'humanité, il y a eu ceux qui ont été soi-disant grands, magnanimes, extraordinaires, comme Socrate, Confucius, Bouddha et d'autres. Mais selon la perspective de Dieu, ils étaient des pécheurs, parce que tout homme est né dans le péché, avec le péché hérité d'Adam, et voilà. Ça, c'est la vision de Dieu, et on ne peut pas aller contre, c'est comme ça. Jésus, lui, il avait la puissance spirituelle, il avait les qualifications requises pour être le sauveur de l'humanité, il n'avait pas de péché originel parce qu'il était conçu par le Saint-Esprit, il n'avait pas non plus de péché commis pendant sa propre vie, et alors, à cause de tout cela, il avait la force de sauver, il avait la capacité de sauver l'humanité parce qu'il était sans blâme. Pour cela, si vous croyez que Jésus est le seul vrai chemin vers le salut, et que vous l'acceptez comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Mais vous êtes né de nouveau. Quand vous êtes pardonné, c'est la nouvelle naissance. Et vous avez la foi des nourrissons, petits-enfants. Petits-enfants se réfèrent donc à la foi des gens qui viennent d'accepter Jésus-Christ, qui sont pardonnés de leurs péchés et deviennent des enfants de Dieu. Les gens qui sont nés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ et qui gagnent la vie spirituelle dans la foi mûre, atteignent la foi des enfants. Lorsqu'un bébé est né et qu'il est sevré de sa mère, il peut reconnaître ses parents et distinguer certains trucs, certains éléments, des choses proches, puis certaines personnes. Cependant, les enfants connaissent peu et doivent rester sous la protection de leurs parents. Quand on leur demande s'ils connaissent leurs parents, ils vont répondre oui. Et lorsqu'on leur demande par exemple quelle est la ville natale de tes parents ou la généalogie de tes parents, de ta famille, ils ne sont pas capables de répondre. Les enfants ne connaissent donc pas leurs parents en détail. Et cela même s'ils peuvent dire « je connais papa et maman ». Si les parents achètent des jouets aux enfants, les enfants peuvent dire « voilà, ce jouet-là c'est une voiture, ça c'est une poupée ». Mais il ne sait pas comment la voiture a été construite, ni comment la poupée a été achetée. Et ils connaissent donc qu'une partie des choses, c'est ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux et vivre sous le moment. Spirituellement, les enfants donc ont la foi des débutants pour connaître Dieu, le Père. Spirituellement, les enfants ont la foi des débutants pour connaître Dieu, le Père. Alors ils jouissent de la grâce dans la foi. Après avoir accepté Jésus-Christ, ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, 13, il dit « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Ici, « vous avez connu le Père » indique que les gens qui ont la foi d'un enfant ont accepté Jésus-Christ et ont appris la parole de Dieu en la lisant, en écoutant régulièrement les prédications qui sont données dans l'église de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas capables encore d'obéir à la parole en toute occasion parce qu'ils n'ont pas assez de foi. C'est pourquoi la foi des enfants, c'est la foi des gens qui connaissent la vérité parce qu'ils l'ont entendue, mais qui parfois obéissent à la parole et parfois pas. Ça, c'est un niveau de foi qui n'est pas encore parfait. C'est-à-dire qu'il n'a pas atteint la stature normale. Clair? Tout comme un enfant grandit pour devenir un adolescent solide et ensuite plus perspicace, la foi des enfants grandit et devient la foi des jeunes, des ados. Ça veut dire qu'après une phase d'enfance spirituelle dans la foi, le niveau de la foi des gens grandit au travers de la prière, au travers de l'écoute de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle devienne celle d'une jeunesse spirituelle qui peut discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, il y a peu d'enfants qui connaissent convenablement, par exemple, la loi du pays, de votre pays. Par exemple, si on demande à Lucas, alors vas-y, parle-moi de la loi en France, tout ça. Ils doivent demeurer, les enfants, sous la protection de leurs parents, et s'ils commettent une bêtise, un crime, eh bien leurs parents sont responsables pour eux. Parce qu'ils n'ont pas éduqué correctement leurs enfants, ils n'ont pas eu le temps d'éduquer leurs enfants en toutes choses, convenablement, et voilà, l'enfant a fait une bêtise, alors ils sont responsables, les parents. Les enfants ne savent pas clairement qu'est-ce que c'est le péché, ce que c'est que la justice, et ce que c'est que le cœur du papa, de la maman. Parce qu'ils sont dans le processus de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il en est des adolescents ? Ils sont forts, facilement irritables, enclins au péché, ils sont avides de voir, d'apprendre, d'expérimenter toutes sortes de trucs, ils ont tendance à imiter les autres, ils ont tendance à être curieux dans tous les domaines, rebelles parfois, persuadés qu'il n'y a rien qu'ils ne puissent pas faire, enfin tout va glisser comme voilà. Mais de la même manière, les jeunes spirituels ne cherchent pas les choses terrestres, mais au contraire, ils ont de l'espérance pour le ciel, avec la plénitude du Saint-Esprit, et ils sont vainqueurs du péché par la parole de Dieu, parce qu'ils ont une foi forte. Comment donc les jeunes qui ont une foi forte, courageuse, vainquent-ils le monde, pécheur et le diable? Le diable, malgré qu'il est fort, n'ose rien faire devant les enfants de Dieu. On trouve ça dans 1 Jean 2,13. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous pouvez vaincre le diable lorsque vous abondez dans la vérité à cause de la parole de Dieu qui doit demeurer en vous. Tout comme des gens ne peuvent observer la loi, s'ils ne la connaissent pas, vous ne pouvez pas vivre selon la parole de Dieu si vous ne la connaissez pas. C'est simple. Alors pour ça, vous devez garder sa parole dans votre cœur et en vivre, chassant toute espèce de péché. De cette manière, les gens, avec la foi des jeunes gens, peuvent vaincre le monde au moyen de la parole de Dieu. C'est pourquoi 1 Jean 2,14 dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez? C'est clair. Maintenant, la foi des pères. Lorsque des jeunes gens, avec une foi forte et un esprit sans plainte, grandissent et deviennent des adultes, ils deviennent capables d'évaluer, de comprendre chaque situation et, après de nombreuses expériences, ils gagnent en sagesse afin d'être suffisamment prudents. Les pères sont différents des jeunes gens sur beaucoup d'aspects. Les jeunes gens sont immatures parce qu'ils manquent d'expérience, même s'ils ont appris beaucoup de choses. De ce fait, il y a de nombreuses situations, de nombreux événements que les jeunes gens ne comprennent pas, alors que les pères en saisissent parfaitement les éléments. Pourquoi? Parce que ils ont expérimenté une variété d'aspects de la vie. Les pères comprennent aussi pourquoi les parents veulent avoir des enfants, et combien c'est pénible l'accouchement, et combien il est difficile d'élever des enfants. Uniquement les gens qui ont la foi des pères peuvent parfaitement comprendre le cœur de Dieu le Père. Tel chrétien mûr, Jean 1 Jean 2,14 dit, je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. C'est plus que de connaître, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman. Ils connaissent le Père, ils connaissent celui qui est le commencement, le Père, le Créateur. Parce qu'eux-mêmes sont pères, eux-mêmes sont parents. Ils connaissent maintenant qu'est-ce que c'est le cœur de parents. De plus, ceux qui ont la foi des pères deviennent des exemples pour beaucoup et ils peuvent rencontrer beaucoup de sortes de personnes parce qu'ils sont humbles et capables de tenir ferme sur la vérité sans dévier. Si on doit comparer la foi des pères à la saison des moissons, eh bien on peut comparer la foi des jeunes gens à un fruit qui n'est pas mûr. Les gens qui ont la foi des jeunes gens peuvent être comparés à une récolte qui n'est pas à maturité parce que ils n'ont pas eu encore suffisamment d'expérience et ils ont une tendance à insister sur leurs propres pensées et leurs théories. C'est pas mûr. Alors Dieu veut que ses enfants atteignent le cœur de Dieu, c'est-à-dire de celui qui est depuis le commencement, de Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même et qui était obéissant jusqu'à la mort. Tout ça dans Philippiens 2, 5, 8. Alors pour cette raison, c'est Dieu qui permet les tribulations à ses enfants, et au travers de ces tribulations, leur foi mûrit, et ils obtiennent de l'endurance et de l'espérance. De cette manière, leur foi grandit au niveau des pères. Dans Luc 17, Jésus a raconté à ses disciples la parabole d'un serviteur. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était un serviteur qui avait travaillé dans le champ toute la journée, et qui rentre à la maison, couché du soleil, mais il n'y avait personne pour lui dire « bon travail, c'était bien, bravo, super, repose-toi, mange !» Au contraire, ce serviteur, Jésus nous raconte ça, il doit préparer le dîner pour son maître, et puis il doit attendre, après ça seulement, eh ben, il peut se servir son propre repas. Et puis il n'y a personne pour lui dire « merci beaucoup pour ton dur labeur !» Malgré tout ce qu'il a fait pour son maître, eh bien, son maître lui avait commandé de le faire, mais il ne le remercie pas. Et le serviteur, il dit seulement, « Je suis un serviteur inutile, je n'ai fait que mon devoir. » De la même manière, Vous devez être un homme humble et obéissant qui dit « Je suis un serviteur inutile, je n'ai fait que mon devoir. » Même après avoir fait quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Les gens avec une foi de père connaissent la profondeur et la hauteur du cœur de Dieu qui est depuis le commencement, et ils ont aussi le cœur de Jésus-Christ qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui est devenu obéissant jusqu'à la mort. Dieu reconnaît et félicite hautement de tels individus, et ils brilleront dans le ciel comme le soleil, c'est ce que la Bible nous dit. Tout comme un grain de sénevé grandit et devient un grand arbre dans lequel se nichent de nombreux oiseaux, la foi spirituelle grandit de la mesure de nourrissons, petits enfants, vers celle des enfants, des jeunes gens et des pères. Alors, combien devez-vous être béni lorsque vous connaissez celui qui est depuis le commencement et que vous avez suffisamment de foi pour comprendre sa hauteur, sa profondeur et que vous êtes capable de veiller sur votre âme, sur les âmes des autres, comme Jésus l'a fait lui-même. Frères et sœurs, il faut que nos cœurs atteignent cette stature. Il faut avoir le cœur du Seigneur, abondant en générosité, abondant en amour, possédant la foi des pères, portant du fruit en abondance et brillant comme le soleil dans le ciel pour l'éternité. Amen. Alors, Dieu permet que vous moissonniez selon ce que vous avez semé, et il permet que vous soyez récompensé selon ce que vous avez fait. Tout ça parce qu'il est juste. Dans Matthieu 7:7-8, Jésus nous dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Vous ne recevez pas des bénédictions et des réponses à vos prières par une foi charnelle, mais par une foi spirituelle. Vous pouvez obtenir la foi charnelle en écoutant la parole de Dieu et en apprenant par cœur, par exemple, en allant à l'école biblique. La foi spirituelle n'est pas donnée gratuitement. Vous ne pouvez recevoir la foi spirituelle que si Dieu vous la donne. Romains 12:3 nous presse. Je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chaque foi spirituelle, individuelle, donnée par Dieu, est différente de l'un à l'autre. Aussi, comme nous trouvons dans 1 Corinthiens 15:41, que je vous ai cité vendredi, « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » L'endroit de repos au ciel et la gloire donnée en récompense à chaque individu sont différents selon la mesure de foi. La mesure, c'est un poids, c'est un volume, c'est une quantité, la taille d'un objet. Dieu mesure la foi de chaque individu et donne à la personne des réponses selon la mesure de sa foi. Généralement, les gens avec une grande foi ne peuvent recevoir des réponses que s'ils désirent dans leur cœur. D'autres ne reçoivent des réponses que s'ils prient avec ferveur et jeûnant pendant une journée ou plusieurs journées. Et d'autres encore, avec un peu de foi, reçoivent des réponses quand ils prient pendant des mois ou des années. Si vous pouviez gagner de la foi spirituelle comme vous le voulez, tout le monde pourrait recevoir les réponses et les bénédictions qu'il voudrait. Et le monde deviendra un endroit de confusion incroyable. Vous pensez tous à Bruce Tout-Puissant, là. Supposons qu'il y ait un homme qui ne vit pas selon la parole de Dieu et que cet homme demande « Mon Dieu, s'il te plaît, laisse-moi devenir le chef le plus important de la société la plus importante du pays. » Ou s'il dit « Mon Dieu, tu vois, je déteste ce bonhomme, punis-le s'il te plaît. » Et que sa prière et son désir soient répondus. Ben, à quoi ressemblerait le monde? Comment pourriez-vous posséder la foi spirituelle? Dieu ne donne pas la foi spirituelle à tout le monde, mais uniquement à ceux qui sont qualifiés en obéissant à sa parole. Parallèlement, vous pouvez obtenir la foi spirituelle dans la mesure où vous chassez toute fausse idée, telle que la haine, les disputes, l'envie, et toutes ces autres choses en vous, et que vous aimiez même vos ennemis. Dans la Bible, Jésus a complimenté certains en disant « Votre foi est grande », mais il a repoussé d'autres en disant « Gens de peu de foi ». Par exemple, dans Matthieu 15, 21-28, il y a une femme cananéenne qui est venue vers Jésus et qui lui demande de guérir sa fille possédée par un démon. Elle dit « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus, qui teste sa foi, lui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » La femme s'agenouille devant Jésus, « Jésus, au secours, au secours !» Jésus refuse catégoriquement, il dit « Il n'est pas bien qu'elle prenne le pain qui est pour les enfants et qu'on le donne aux chiens. » Et la femme, c'est quelque chose d'humiliant. Elle est traitée comme un chien, parce qu'elle n'était pas une juive, elle était une femme une chienne. Et dans cette situation, il y a beaucoup de gens qui se seraient sentis honteux, désorientés, offensés. Ils auraient tourné le dos, abandonné. Ils auraient cessé d'essayer d'obtenir une réponse de Jésus. Cependant, cette femme, elle n'était pas décontenancée. Elle a accepté la parole de Jésus de manière humble. Elle s'est abaissée elle-même, comme une petite, comme une basse chose, comme un chien. Et à supplier pour la grâce, sans se lamenter. Oui, Seigneur, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En entendant ça, Jésus est satisfait de sa foi et répond, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon comme tu veux. Et alors, à l'heure même, sa fille était guérie. Alors, on voit aussi Jésus reprendre ses disciples pour leur peu de foi, dans Matthieu 17, 14, 20. Vous savez l'histoire quand un homme a emmené son fils qui souffrait d'une sévère épilepsie vers les disciples de Jésus, puis ils sont incapables de guérir l'enfant. Ensuite, l'homme amena son fils à Jésus et puis il chasse immédiatement le démon et l'enfant guérit. Après que Jésus ait guéri l'enfant, ses disciples sont venus vers lui et l'ont demandé « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon ?» Et il leur répond « C'est à cause de votre incrédulité. » De plus, Jésus adresse un reproche à Pierre dans Matthieu 14, 22-23. Par une nuit, ses disciples étaient sur un bateau, au milieu des vagues, et Jésus s'approche d'eux en marchant sur l'eau. Ils ont été terrifiés, ils ont eu peur, ils croyaient que c'était un fantôme, ils sont mis à crier. Jésus leur dit, mais non, rassurez-vous, ce n'est que moi, n'ayez pas peur. Pierre prend courage, il répond, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Alors Jésus lui dit, viens, et comme Pierre voulait y aller, il est sorti du bateau. Et quand il a vu les vagues, quand il a entendu le bruit du vent, il a commencé à réaliser ce qui se passait. Il dit, Seigneur, il se met à enfoncer, sauve-moi. Alors immédiatement, Jésus tend sa main, saisit Pierre, et en lui reprochant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors on reproche à Pierre son peu de foi à ce moment-là, mais après, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a accompli un nombre incalculable de miracles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ avec sa grande foi. De nombreuses paraboles dans la Bible qui expliquent la mesure de foi. Et une petite foi qui devient une grande foi, un manque de foi, peu de foi. 1 Jean 2 explique la mesure de foi en comparant la croissance d'un homme. Et on trouve ça dans Ézéchiel 47, 3, 5. Il explique la mesure de la foi en comparant cela à la profondeur de l'eau. Je vous lis le texte. Lorsque l'homme avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors, le livre d'Ézéchiel, c'est un des 5 grands livres de prophétie de l'Ancien Testament. Et Dieu demande donc au prophète Ézéchiel de donner des prophéties lorsque le sud du royaume de Juda a été détruit par Babylone et il y a beaucoup de juifs qui ont été déportés, emmenés en captivité, en tant que prisonniers de guerre. Et à partir de Ézéchiel 40, eh bien, il nous est décrit le temple qu'Ézéchiel voit dans une vision. Et dans Ézéchiel 47, le prophète décrit une vision dans laquelle il voit de l'eau qui sort du seuil du temple vers l'est. L'eau provenait du côté du temple, au sud de l'autel. Ensuite, l'eau s'écoulait par la porte nord et jaillissait du sanctuaire vers l'extérieur de la porte extérieure, faisant face à l'est. Alors, l'eau, on le sait, je l'ai déjà dit souvent, symbolise spirituellement la parole de Dieu, Jean 4, 14. Et le fait que l'eau vient au travers et autour de l'intérieur du sanctuaire et puis s'écoule vers l'extérieur du sanctuaire, ça indique que la parole de Dieu n'est pas uniquement prêchée dans le sanctuaire, mais aussi partout dans le monde. Que veut dire Ézéchiel lorsqu'il dit « L'homme mesura 1000 coudées, allant vers l'Orient avec un cordeau à la main. » Ça se réfère au Seigneur qui mesure la foi de chaque individu et qui la mesure avec précision, selon la mesure de foi individuelle, et ça c'est au jour du jugement. L'homme ayant un cordeau dans la main se réfère au serviteur du Seigneur. Il prend une mesure. Ça signifie que le Seigneur mesure la foi de chaque individu correctement, sans faire d'erreur. Donc, le changement de profondeur de l'eau signifie, par métaphore, les différents niveaux de mesure de la foi. L'eau jusqu'aux chevilles, par exemple, indique la foi des nourrissons, des petits-enfants. La foi qui nous permet de recevoir le salut. Ensuite, l'eau jusqu'aux genoux se réfère à la foi des enfants. Et l'eau jusqu'à la taille se réfère à la foi des jeunes gens. Et finalement, l'eau est assez profonde pour nager, et ça c'est la foi des pères. Au jour du jugement, la foi de chaque individu sera mesurée. Et le lieu de séjour céleste de chaque personne sera déterminé par le Seigneur dans la mesure où il vit selon la parole de Dieu dans cette vie ici-bas, dans ce système créé. Mesurer 1000 coudées indique la grandeur du cœur de Dieu, sa précision, sans la moindre erreur, et les profondeurs de son cœur qui tient compte de toute chose. Dieu mesure la foi de chaque individu, non pas d'une seule perspective, mais de tous les angles, parce que Dieu cherche notre moindre œuvre et le centre de notre cœur de manière tellement précise que personne ne se sentira faussement jugé. Dieu cherche donc toute chose, de ses yeux flamboyants, comme on le voit dans l'Apocalypse, et fait en sorte que chaque individu récolte ce qu'il a semé et qu'il puisse avoir la récompense selon ce qu'il a fait. Marcher dans une eau jusqu'aux chevilles et se ressent différemment que de marcher dans une eau jusqu'à la taille. Lorsque vous êtes dans l'eau jusqu'aux chevilles, vous pouvez penser marcher ou courir parce que vous ne pouvez pas nager là. Cependant, lorsque vous êtes dans l'eau jusqu'à la taille, vous préférez nager à marcher. De la même manière, ceux qui ont la foi d'enfant pensent différemment de ceux qui ont une foi de père, tout comme les pensées d'un homme sont différentes dans les différentes profondeurs d'eau. Un jour, Dieu donne à Abraham un ordre, celui d'offrir son fils unique, Isaac, comme un sacrifice. Qu'est-ce qu'Abraham a pensé à propos de cet ordre? Il n'a pas réfléchi dans l'angoisse. Pourquoi Dieu me demande tout pareil, d'offrir mon fils en holocauste, malgré le fait qu'il m'a donné Isaac en tant qu'enfant de la promesse? Est-ce qu'il est en train de briser sa promesse? Il ne s'angoisse pas, il ne flippe pas, il ne se stresse pas. Dans Hébreux 11, il nous est dit qu'Abraham a réfléchi sagement à l'ordre de Dieu. Il se dit, Dieu ne ment jamais, donc il ressuscitera mon fils des morts. Abraham, il n'a pas considéré qu'il était supérieur à ce qu'il était, mais il s'est considéré lui-même conformément à la mesure de foi que Dieu lui avait donnée. Il n'a pas tout remis en doute. Abraham n'a pas murmuré, il ne s'est pas plaint. Mais il a obéi à Dieu avec un cœur humble. Et le résultat, c'est qu'il a été approuvé et favorisé d'autant plus par Dieu. Et il est devenu le précurseur, le père de la foi. Alors vous devez comprendre, c'est au travers d'une épreuve sévère et rude qu'Abraham a été déclaré posséder la foi spirituelle et qu'il a été conduit vers le chemin des bénédictions. Vous pouvez recevoir l'amour et les bénédictions de Dieu lorsque vous surmontez les ardentes épreuves en réfléchissant sagement à vous-même, en accord avec la mesure, en accord avec la mesure de votre propre foi. Il y a 1 Corinthiens 3, 12, 15 qui nous dit que Dieu teste la foi de chaque individu avec le feu et mesure l'œuvre qui demeure après le feu. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, le fondement ici se réfère à Jésus-Christ. Et l'œuvre indique ce qui est fait avec un effort de tout son cœur. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ, ses œuvres seront révélées pour ce qu'elles sont, parce que, nous dit le texte, parce que le jour les fera connaître à la lumière. Nouveau, dans 1 Corinthiens 3:12, je vous le dis encore, si quelqu'un bâtit sur le fondement d'or, de l'argent, de pierres précieuses, de bois, de foin, de chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, si Dieu teste le travail de chaque individu avec le feu, la qualité du travail de chaque individu apparaîtra être la foi d'or, d'argent, de pierres précieuses, de bois, de paille ou de chaume. Après le test de Dieu, les gens qui ont une foi d'or, d'argent, de pierres précieuses, de bois ou de chaume seront conduits vers le salut, mais les gens avec une foi de paille ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils ne sont pas mieux que ceux qui sont morts en esprit. De plus, les gens avec une foi d'or, d'argent ou de pierres précieuses peuvent surmonter les épreuves ardentes, tout comme l'or, l'argent et les pierres précieuses ne sont pas brûlées par le feu. Mais pour les gens avec une foi comme du bois ou du chaume, ce n'est pas facile de surmonter les difficultés de la vie terrestre. L'or, c'est un élément malléable, c'est un élément conducteur, la plupart du temps il est jaune, c'est métallique, il est principalement utilisé dans la confection des pièces de monnaie, les bagues, les bijoux, les accessoires, l'artisanat, enfin bon. Il a longtemps été considéré comme le bijou de la plus haute valeur. Et il a une brillance merveilleuse qui ne s'altère pas, même après un temps très long, parce que il n'y a pas de réaction chimique entre l'or et les autres substances. En conséquence, l'or a été considéré comme le bijou de la plus haute valeur parce qu'il ne change pas. Il est extrêmement utile pour de nombreux buts, est assez flexible pour s'adapter à toutes sortes de formes. L'argent est largement utilisé pour les pièces, les accessoires, dans des buts industriels, parce qu'il est le second meilleur en malléabilité et conductivité, et il conduit très bien la chaleur. L'argent est plus léger que l'or, il est moins brillant et il est moins beau que l'or. Les pierres précieuses, comme le diamant, le saphir, l'émeraude, émettent des merveilleuses couleurs et des éclats formidables, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour de multiples usages. Et ils perdent aussi de leur valeur et deviennent même sans valeur lorsqu'ils sont griffés ou brisés. Alors pour cela, Dieu mesure la foi de chaque individu comme étant une foi d'or, d'argent, de pierres précieuses, de bois, de chaume ou de paille, selon le travail qui demeure après les ardentes épreuves, et considère la foi d'or comme étant la plus valable de toutes. D'une part, les gens qui ont une foi d'or ne sont pas secoués même s'ils sont face à des épreuves ardentes. La foi d'argent n'est pas aussi solide que la foi d'or, mais elle est supérieure à celle des pierres précieuses qui sont fragiles dans le feu. D'autre part, les gens avec une foi de bois ou de chaume ont des œuvres qui sont brûlées par les tests du feu et ils peuvent à peine recevoir leur salut. Mais en tout cas, ils n'ont pas de récompense. Je répète, les gens qui ont une foi de bois ou de chaume, leurs œuvres sont brûlées par le feu, bon, ils reçoivent le salut, mais pas de récompense. Dieu récompense chacun selon ce qu'il a fait, parce qu'il est lui-même juste. Il accepte donc les gens qui ont une foi qui ne change pas, de la manière dont l'or ne s'altère pas, et les récompense dans le ciel et déjà aussi sur cette terre. L'apôtre Paul, qui s'est dévoué comme l'apôtre des gentils, des goïs, les chiens, a prêché l'évangile avec un cœur qui n'a pas changé, et il a couru la course jusqu'au bout, la course de la foi. Et cela malgré qu'il a eu affaire à beaucoup et d'incalculables épreuves et difficultés depuis le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus pour la première fois. Dans Actes 16, 25, il nous est dit la chose suivante. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils avaient prêché l'évangile, ils avaient prêché, Paul et Silas avaient été brutalement flagellés pour avoir prêché, emprisonnés, avec leurs pieds pris dans des ceps, mais ils chantaient les louanges de Dieu dans les prières sans se plaindre. De cette manière, c'est comme ça que Paul a vécu sans jamais renier le Seigneur jusqu'à sa mort et n'a pas émis de mots de plainte. Il était toujours joyeux, reconnaissant, avec un cœur rempli d'espérance pour le ciel et il était fidèle au travail du Seigneur au point de sacrifier même sa propre vie. Si vous avez la foi de l'or de l'apôtre Paul, vous demeurerez aussi dans un endroit glorieux comme lui, resplendissant comme le soleil au ciel. Et vous recevrez le grand amour de Dieu à cause de votre travail qui ne peut pas être réduit ensemble. Les gens avec une foi d'argent accomplissent leur tâche comme ils devraient le faire, même si leur foi est moindre que la foi d'or. Mais bon, à quoi ressemble la foi des pierres précieuses? Les gens avec une foi de pierres précieuses confessent « À partir de maintenant, je vivrai pour le Seigneur seulement. » Et vu de l'extérieur, ils semblent posséder la foi de l'or, mais ils trébuchent et se déroutent dans des épreuves parce qu'ils n'ont pas la foi d'or. Ils semblent avoir une grande foi lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils se détournent du chemin de la foi et finalement leur cœur est brisé, comme s'ils n'avaient pas de foi du tout. En d'autres termes, la foi de pierre précieuse semble belle seulement pendant un moment. Le travail de la foi de pierre précieuse demeure cependant avec les ardentes épreuves, tout comme la forme des bijoux de pierre précieuse est préservée dans le feu. Elle travaille de la foi de bois et de chaume. Eh bien, c'est réduit à néant après les épreuves. 1 Corinthiens 3, 14, 15 nous dit à nouveau, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Alors, c'est vrai que des gens avec une foi d'or, d'argent et de pierres précieuses seront sauvés et seront récompensés dans le ciel parce que leur œuvre de leur foi demeure après l'ardent test de Dieu. Par contre, l'œuvre de ceux qui ont une foi de bois ou de chaume est brûlée en cendres au travers de l'ardente épreuve, et ces individus-là sont à peine sauvés, et en tout cas, ils ne reçoivent aucune récompense dans le ciel. Dieu accepte votre foi avec joie et vous récompense abondamment lorsque vous le cherchez honnêtement. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il mesure la foi de chaque individu au moyen du test du feu. Dieu donne aussi des bénédictions sur la terre et récompense au ciel quiconque possède une foi inchangée comme l'or. Pour ça, vous devez comprendre qu'il y a diverses réponses et bénédictions de Dieu, aussi bien que diverses demeures et couronnes dans le ciel, selon la mesure de foi de chaque individu. Frères et sœurs, il faut que nous combattions pour obtenir la foi d'or qui plaît à Dieu, afin que vous puissiez jouir de ses bénédictions sur cette terre et dans toutes vos voies, et demeurer dans un endroit glorieux, resplendissant, comme le soleil dans le ciel, quand le Seigneur reviendra pour nous chercher. Frères et sœurs, voilà le but de mon message, c'est de vous exhorter, vous fortifier dans votre décision de marcher fermement avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire une foi, non pas de nourrisson, d'enfant, même pas une foi d'adolescent, mais une foi de père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, réécoutez ce message, prenez des notes, étudiez ces choses, mettez-vous devant Dieu, soyez sérieux, vaquez à la prière avec fidélité, ne vous laissez pas simplement porter comme ça, mais soyez des acteurs de la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, telle est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à bientôt. Merci, je vous aime. À bientôt. Bye bye.